7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. On parle éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, faut-il s'inspirer des méthodes éducatives américaines? Votre enfant se roule par terre pour obtenir ce qu'il veut. Un parent américain vous répondra que c'est normal, que son cerveau est immature, qu'il ne contrôle pas ses émotions. Ses notes sont désespérément mauvaises, il ne fait rien en classe. Un prof américain vous répondra que tout enfant peut avoir envie d'apprendre, qu'il suffit de s'intéresser à lui en tant que personne. Autant dire que dans une classe américaine, on n'entend pas les mouches voler, mais plutôt l'agitation des enfants. Une journaliste française a enquêté sur ce pays de l'enfant roi et revient convaincue. Une fois adulte, les Américains sont plus créatifs et plus disciplinés que les Français dans une file d'attente. Alors pourquoi donc brimer les enfants? Bonjour Véronique Dupont.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour l'agence France Presse. Vous avez vécu 15 ans aux États-Unis. Vous avez scolarisé vos deux petites filles à l'école primaire à New York, à Los Angeles. Vous avez aussi visité des dizaines d'établissements scolaires dans tout le pays pour votre enquête Super Kids, c'est vraiment le cas de le dire, aux éditions Les Arènes. J'ai à peine exagéré dans ce que j'ai dit dans mon introduction. C'est vrai que ça se passe comme ça quand même.
Ça se passe pas mal comme ça. Pour ce qui est du bazar dans les classes, en fait, c'est surtout que les enfants peuvent s'exprimer, mais pas forcément pour faire le chahut, mais parce qu'on veut entendre ce qu'ils ont à dire. Et du coup, eux, ils parlent, ils s'expriment beaucoup et ça donne des classes très vivantes.
Alors, c'est l'occasion pour vous, les voisins et les voisines, de réagir, de poser des questions aussi, bien sûr, à notre invitée Véronique Dupont sur ce qui se passe dans les foyers américains et dans les salles de classe. 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le numéro WhatsApp. En deuxième partie d'émission, on parlera de la mauvaise préparation des enseignants pour intervenir auprès des élèves migrants et réfugiés traumatisés dans le monde avec Anna Cristina Daddio de l'UNESCO. Et puis comme chaque vendredi, on aura la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs, être père d'adolescents migrants. Et d'ailleurs, toutes les chroniques de Marie-Rose Moreau sont aussi disponibles en podcast sur les plateformes de téléchargement. Le titre, c'est toujours le même, c'est parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
Véronique Durand, c'est pas une caricature. Entre l'éducation à la française et l'éducation à l'américaine, les différences sont toujours un gouffre. Vous avez vécu ce choc culturel quand vous êtes rentrée reprendre un poste en France et que donc vous avez ramené vos filles qui avaient commencé à être scolarisées aux États-Unis. Vous avez sillonné des écoles très différentes aussi pour mieux comprendre si ce que vous aviez vécu aux États-Unis était la norme américaine. Donc vous avez été dans des écoles publiques comme privées.
Exactement. La particularité du système américain par rapport au système français, c'est qu'il est complètement déréglementé. Donc c'est un pays de 350 millions d'habitants, 50 États, et chaque État a son propre système, et chaque comté après a ses propres règles, ce qui fait que c'est un véritable laboratoire de création pédagogique. Donc elles sont pas toutes comme ça. Il y a aussi un peu des écoles un peu plus strictes, un peu plus à la française, mais il y a énormément d'écoles progressives qui ont une pédagogie très bienveillante, créative, stimulante pour les enfants. Et je me suis intéressée surtout à ça parce que ça me semblait très complémentaire de l'éducation française et donc du coup très inspirant.
Oui, alors très inspirant. Enfin, on vous sent quand même totalement séduite dans votre livre. Vous dites par exemple le mot non à la maison par exemple, comme à l'école, sans justification, n'existe pas. C'est pas non, tu fais comme ça, c'est comme ça.
C'est vrai qu'on a du mal à l'appliquer autant qu'en France. En France, c'est un peu « bon, ça suffit, j'ai dit, tais-toi, c'est comme ça ». Là-bas, ils vont être beaucoup plus patients, ils vont commencer à expliquer, ce qui peut être dur à comprendre pour des parents français, parce que moi je reste française, donc au bout d'un moment, le non, il ressort, chasser le naturel, il revient au galop. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir le résultat de tout ça. C'était de voir que, en fait, ça marche. Les enfants sont pas plus turbulents en fait qu'en France. La société les laisse un peu plus s'exprimer, vagabonder. Donc on va pas exiger toujours le même niveau de silence, mais globalement ils sont pas non plus. C'est pas vraiment la caricature de l'enfant roi comme on peut l'imaginer depuis ici.
Vous vous êtes sentie vous-même très différente dans vos relations avec vos enfants par rapport à d'autres mères américaines. Vous dites par exemple, vous avez jamais entendu en 15 ans aux États-Unis un parent dire à son enfant, tu es insupportable, cet enfant me rend folle. Ce qui ne serait pas particulièrement stigmatisé en France, c'est un passage, un énervement.
Oui, tout à fait. Alors ça, ce serait vraiment mal vu et il y aurait beaucoup de culpabilité de dire ça à son enfant ou de dire ça de son enfant. Et d'ailleurs, les petites blagues entre maman, oh là là, j'en ai marre, etc. Toutes les petites blagues que des parents français peuvent se faire sur les enfants sont difficiles et tout ça, ça se fait nettement moins. Et ça se fait vraiment pas de dire à un enfant, tu es insupportable, tu me fatigues, etc. On va toujours dire, écoute, ça va être plutôt... En fait, ils prennent plus en compte l'intelligence émotionnelle. Ça va, plutôt que de stigmatiser l'enfant, ça va être « Maman est fatiguée, maman a besoin de calme, là. Il faut que tu comprennes que maman, là, a besoin d'un break » ou quelque chose comme ça. Et ne pas stigmatiser l'enfant, ça, c'est vraiment pas très accepté.
Vous êtes française et vous n'ignorez pas qu'en ce moment, la France va, dans les jours qui viennent, interdire l'usage des violences éducatives ordinaires, hein, c'est-à-dire la fameuse fessée. Ça a mis des années en France. Aux États-Unis, la fessée est légale, mais vous dites, en fait, elle n'est pas du tout utilisée. Elle n'est pas considérée comme politiquement correcte.
Oui, elle n'est pas du tout acceptable. Franchement, les gens ouvriraient des grands yeux s'ils voient un parent donner la fessée à son enfant en public. Ils seraient vraiment interloqués et un peu scandalisés. Moi, j'en ai jamais vu. J'ai même pas entendu de menaces. Vraiment, ça n'existe pas. Ça a totalement disparu. Et le fait est qu'on se rend compte dans un tel environnement qu'on s'en passe très bien.
Quand vous rentrez en France, vous avez ce sentiment d'une agressivité permanente envers les enfants ?
Une agressivité beaucoup plus soutenue. Voilà, on passe plus sénère, on s'énerve plus, on exige aussi beaucoup plus d'eux. Du coup, on les dispute plus, on les réprimande plus, on leur demande toujours de corriger leur comportement. Silence dans les rangs, silence ceci, tenez-vous comme ça. Et c'est un environnement, du coup, plus agressif pour eux en général.
On a le sentiment que la méthode américaine, c'est l'exemple plutôt que l'autorité. Comment
ça
s'applique ?
Tout à fait, c'est ça, c'est donner l'exemple, expliquer. Ils veulent toujours faire de tout une leçon, a teaching experience. C'est beaucoup moins la figure autoritaire du parent ou du prof. C'est vraiment, on discute, on explique, on te transmet en fait. Et le parent va se mettre à côté, on va faire une discussion assise. Alors là, tu vois, je comprends vraiment ce que tu as ressenti, tu es très en colère, mais c'est pas possible, on ne peut pas frapper son frère parce qu'il t'a piqué ton jouet. Ça va être ça, plutôt que de l'envoyer direct au coin. Et le prof, c'est pareil, ça va être une discussion beaucoup plus d'égal à égal. On va discuter de ce qu'on peut faire plutôt que de ce qui n'a pas été. Et pour les enfants, ça leur donne beaucoup un sens de la confiance.
Mais comment font les Américains, les familles américaines qui ne sont pas formées, c'est pas leur métier, contrairement aux enseignants, pour connaître les méthodes de gestion de conflits, de la communication non violente, pour mieux gérer leurs enfants? Ou plutôt pour être patient quand ils ne parviennent pas à les gérer aussi?
C'est vraiment toute la société qui est forgée comme ça. Il y a aussi une plus grande acceptation de l'enfance, une plus grande célébration de l'enfance. Là où nous, on va avoir un caprice, un énervement, eux, ils vont. C'est comme si toute la communauté allait se mobiliser. Si on voit un parent en difficulté avec un enfant qui crie ou se roule par terre, plutôt que de faire des gros yeux en se disant « cet enfant est mal élevé », il y a des parents, d'autres parents qui vont s'accroupir, qui vont dire « bah alors, qu'est-ce qu'il y a, bonhomme ?» qui vont être un peu sympathiques avec les parents. Et aussi accepter, ils vont pas, tout le monde ne va pas se sentir dérangé parce qu'un enfant fait une crise dans une queue ou qui bouscule un peu au restaurant. Ils vont vouloir jouer, interagir avec l'enfant. Il y a plus une célébration, une acceptation de l'état de l'enfance.
C'est ça, et une bienveillance généralisée finalement.
Oui, exactement.
L'enfant ne dérange pas la société ?
Non, 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 vraiment, c'est quelque chose qui est un petit peu inexistant, inconnu. Ils célèbrent l'enfance, elle est sacrée aux États-Unis. Donc, plutôt que de voir un dérangement, ils vont voir quelque chose de joyeux, un moment un peu précieux. Et ils vont y participer, ils vont s'adresser beaucoup aux enfants dans la rue, s'adresser aux parents. C'est, quand on a un enfant, une poussette à New York, on a l'impression qu'on rentre dans un grand club tout d'un coup, que tout le monde commence à vous parler, à vous saluer, alors qu'avant, les gens passaient à côté de vous. Ils vont vous parler de votre progéniture, interagir, même dans l'avion, là où on a tous connu un peu la terreur des longs courriers avec un enfant qui saute partout et tout le monde qui vous fait les gros yeux. Là, ils vont jouer avec eux. Et on aura l'impression que ça ne les dérange pas.
Ouais, donc finalement, chaque Américain est un peu pédagogue et spécialiste de l'enfance en lui-même. Alors à l'école, comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans les écoles que vous avez visitées?
Ce qui m'a frappé déjà, alors qu'on pourrait penser que parce qu'il laisse plus faire, plus s'exprimer, que c'est le bazar, et bien pas du tout. C'était vraiment le silence, un silence... quelque chose d'assez paisible en fait. Dans les maternelles en tout cas, les maîtresses étaient pas du tout en figure autoritaire, une fois de plus en grande sœur. Elles prenaient les enfants sur leurs genoux, elles les cajolaient, elles étaient très très maternantes et très douces, mais jamais en autorité. Et ça fonctionnait. Les enfants s'amusaient, faisaient les temps ensemble, les temps autonomes, et ça fonctionnait. Et en primaire ou en lycée, on est dans la discussion, dans l'échange, dans le prof est un partenaire, un égal, quelqu'un de confiance, et ça marche. Alors après, c'est sûr qu'il peut y avoir un niveau sonore plus élevé, parfois, qui pour un français peut être très désagréable. Les profs français qui enseignent là-bas peuvent être au début choqués, et puis finalement ils s'adaptent, ils se disent, c'est vrai que la vie, c'est pas toujours silencieux.
La confiance, ça peut aller très loin. C'est-à-dire que les enseignants américains, dans ce que vous décrivez, disent, quoi que fasse l'enfant, l'élève, c'est génial. Pratiquement.
Presque. C'est-à-dire ils vont toujours voir le positif, même si l'enfant a eu des résultats très médiocres, ils vont essayer d'établir un contact, de le connaître, de dire ben maintenant on va travailler ensemble et ça va aller mieux, on va travailler avec tes forces et tu vas faire des progrès. Ils vont toujours essayer de l'élever, de le faire grandir et en général ça marche.
Alors les chefs d'établissement, les enseignants ont un peu des mantras qui passent en boucle comme ça. Vous citez les phrases magiques d'une Texane qui a enseigné pendant 40 ans, qui est décédée d'ailleurs, c'est Rita Pearson,
c'est ça,
qui a fait des conférences, TEDx, qui disait chaque matin aux enfants, répétez-vous, je suis quelqu'un de bien, je suis forte, j'ai des projets, j'ai des gens à impressionner, j'ai des endroits à visiter, à des élèves qui précisément venaient de milieux sociaux très défavorisés, avec des vies quotidiennes très difficiles.
Oui, c'est comme une prophétie autoréalisatrice, elle partait du principe que ces enfants ont une vie dure, qu'on leur renvoie, que la société leur renvoie un miroir très négatif tout le temps, et qu'ils avaient besoin un peu d'inverser ça et d'avoir un peu de positivisme, de confiance en leur futur, parce que pour rentrer dans le jeu de l'école, il faut y croire, il faut penser que ça va vous servir à quelque chose, tout ça, et donc il fallait qu'ils y croient, qu'ils croient en eux-mêmes, et voilà, elle obtenait des résultats.
Comment se bâtit la relation enseignant-élève, d'autant plus dans des établissements, parce que vous avez visité aussi des collèges, enfin des lycées plutôt, qui sont sous-dotés, qui manquent de moyens, qui accueillent des élèves de milieux très défavorisés, avec beaucoup de violence aussi dans certains quartiers. Comment se bâtit la relation entre les enseignants et les élèves, puisque vous dites qu'elle est fondamentale en fait pour avancer dans les apprentissages?
C'est un peu comme dans tout... Dans l'apprentissage de l'enfance aux États-Unis, c'est où on dit il faut tout un village pour élever un enfant. Donc c'est à tous les niveaux. Il va y avoir des réunions d'école où on met tout le monde ensemble pour discuter, pour se dire bonjour, pour se connaître. Après, en classe, on va faire des choses pour se connaître. Les parents vont être invités plus à intervenir dans l'école aussi, pour se connaître, pour travailler ensemble, pour l'enfant. Parce que quand les gens se connaissent personnellement, tout passe mieux. Et ils vont essayer d'établir une relation personnelle avec l'enfant. Je me rappelle d'un assistant proviseur qui... On avait mis peut-être une demi-heure à traverser la cour d'école parce qu'il s'arrêtait à chaque enfant. Et il avait l'air de tous les connaître. Bon, évidemment, leur prénom, leur classe et tout, mais également, alors elle, je veux qu'elle devienne mon médecin plus tard. Alors vous deux, là, les amoureux, ils faisaient des petites blagues. Alors toi, alors ton livre. Ça, en fait, ils connaissaient tous les enfants très personnellement, Et les enfants, bah, du coup, établissent ce lien de confiance où, où c'est pas juste un prof, c'est pas juste un proviseur, c'est aussi quelqu'un qui veut sincèrement leur bien.
Ouais. Un directeur d'école ou de lycée, c'est... Enfin, il doit être un leader.
Oui. Un leader par l'exemple, encore une fois, un leader un peu positif qui va, quand l'enfant, alors quand il y a quelque chose de très mal qui se passe, s'il y a une agression ou quelque chose, il va y avoir une sanction. Ça ne veut pas dire qu'on laisse faire tout.
C'est la question que j'allais vous poser. Oui. Comment se décident les sanctions dans les établissements scolaires?
Il y a des lignes rouges aussi. Il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, c'est-à-dire des choses qui ne vont pas forcément être sanctionnées, comme un enfant qui se lève tout le temps, qui n'écoute pas. Bon, ça dérange le cours, mais avant de mettre en place le mode sanction, on va essayer de trouver un plan B, de discuter avec lui, de s'asseoir, de faire venir les parents. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux? Et trouver un modus operandi pour que ça fonctionne. Mais s'il y a quelque chose de grave, une agression, là, évidemment, il va y avoir une sanction, il va y avoir une exclusion. Mais après, encore une fois, il va y avoir un travail sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui peut changer. Et éventuellement, s'il y a eu un dommage, il va y avoir une réflexion sur la réparation.
Alors, vous avez visité aussi des établissements qui sont quand même assez, assez incroyables, très très innovants, pas à l'image du reste des établissements scolaires. Je pense à l'établissement Brightworks à San Francisco, où on est au cœur de l'innovation, où vous citez d'ailleurs l'atelier, le fameux workshop, une espèce de pièce où il y a plein d'outils, des marteaux, des perceuses, des scies industrielles à bois, hein, pour des enfants qui sont même pas adolescents, qui sont rangés verticalement par ordre de dangerosité, écrivez-vous, mais en accès libre. Et le fondateur explique que si on est assez grand pour attraper une scie sauteuse, on est assez grand pour l'utiliser. Alors autant dire que quand même dans la société américaine qui est omnubilée par le risque, par l'accident, par la responsabilité, ça peut sembler un peu paradoxal.
Oui, même chez eux ça détonne. D'ailleurs ils admettent que... voilà, parce qu'ils sont obsédés par la sécurité, etc. Mais du coup, ça donne aux enfants une très grande confiance. Bon, du coup, la scie industrielle, elle ne va pas être accessible aux 4 ans, hein, qu'on se rassure. Mais ils me disent qu'avec ce système, ils ont eu, c'est une école qui existe depuis 8-9 ans et qu'ils n'ont eu aucun accident notable qui sorte du petit bobo qu'on trouvera partout. Donc ça fonctionne. Et pour les enfants, c'est leur donner une grande conscience, une confiance. C'est leur dire « tu es capable ». Et c'est quelque chose qu'on a ressenti beaucoup là-bas, dans plusieurs écoles, able and competent, compétent.
Ouais, c'est ça, capable et compétent. Est-ce que ça suffit pour donner l'envie d'apprendre? Puisque vous expliquez bien que finalement, l'envie d'apprendre est forcément à l'intérieur de tout enfant, c'est juste que c'est l'enseignant qui ne sait pas s'y prendre.
Oui, ben c'est quelque chose de fondamental en fait en pédagogie américaine, ça vient de loin, ça vient de John Dewey qui est un contemporain, mais avant Maria Montessori, il parlait de l'école de l'expérience au début du XXe siècle, et c'était pas « il faut apprendre parce que c'est des savoirs qu'on doit ingurgiter », c'est on expérience, on fait des choses et l'envie viendra en faisant. Et dans des écoles comme Brightworks, c'est un peu comme ça. C'est on fait les choses qu'on a envie de faire et on apprend les savoirs au moment où on commence à en avoir besoin. Donc ils décident, il peut y avoir un grand thème, la ville, qu'on va décliner dans toutes les classes, toute l'année. Et ils décident ensemble de ce qu'ils vont étudier. Alors en physique, ils vont étudier les collines de San Francisco, parce que c'est une école de San Francisco. Ou en biologie, les termites. Ou alors... le filtrage de l'eau, et les enfants décident de ce qu'ils veulent étudier et ils doivent eux-mêmes générer le savoir avec l'aide du prof qui du coup est un facilitateur pour eux.
C'est ça, ça veut dire que l'ennui n'a pas sa place à l'école.
Exactement, ils s'ennuient jamais, ils sont toujours, ils n'ont pas l'impression d'aller à l'école pour s'asseoir toute la journée et s'embêter à prendre des notes ou à devoir écouter. Ils font les choses et ils apprennent des choses qu'ils aiment bien, donc ils s'amusent énormément.
Alors évidemment, on va en venir bientôt aux résultats, hein, et puis comment ensuite les jeunes adultes américains s'insèrent dans les entreprises, où là c'est quand même beaucoup moins rigolo. Vous pouvez bien sûr aussi nous appeler pour questionner notre invitée Véronique Dupont. Super Kids, l'avant-garde des bonnes idées éducatives venues des États-Unis, faut-il s'en inspirer ou pas? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Go, go. I recognize your fragrance, hold up, you ain't never gotta say shit, and I know you taste this a little bit, high maintenance, everybody else basic, you live life on an everyday basis, with poetic justice,
poetic justice. If I told you that a flower bloomed in a dark room, would you trust it? I mean, I write poems in these songs dedicated to you when you're in the mood for empathy. It's blood in my pen. Better yet, with your friends and them, I really wanna know you all. I really wanna show you off. Fuck that, pour up plenty of champagne. Cold nights when you curse this name. You called up your girlfriends and y'all curled in that little bitty range. I heard that she wanna go and party. She wanna go and party. Nigga, don't approach her with that Atari. Nigga, that ain't good game, homie, sorry. They say conversation rule a nation. I can tell, but I could never write my wrongs lest I write it down for real. P.S. You can get it, you can get it, you can get it, you can get it. And I know just, know just, know just, know just, know just what you want. Poetic justice, put it in a song, alright. You can get it, you can get it, you can get it, you can get it. And I know just, know just. I really hope you play this, cause oh girl, you test my patience with all these seductive photographs and all these one-off vacations you've been taking. Clearly a lot for me to take in, it don't make sense. Young East African girl, you too busy fucking with your other man. I was trying to put you on game, put you on a plane, take you and your mama to the motherland. I could do it, maybe one day, when you figure out you're gonna need someone. When you figure out it's all right here in the city and you don't run from where we come from. That sound like poetic justice. Poetic justice. You were so new to this life, but goddamn, you got adjusted. I mean, I write poems in these songs dedicated to the fun sex, your natural hair and your soft skin and your big ass and that sundress. Ooh. Good God, what you doing that walk for? When I see that thing move, I just wish we would fight less and we would talk more. They say communication save relations, I can tell, but I can never write my wrongs unless I write them down for real. P.S.
C'est Kendrick Lamar, Poetic Justice, chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI avec Véronique Dupont, journaliste qui a vécu 15 ans aux États-Unis et qui a enquêté sur les bonnes idées éducatives venues des États-Unis. Vous publiez Super Kids, Véronique Dupont. Ce que vous nous décrivez, ça s'appelle le paradis pour les enfants. Pour les parents, peut-être que c'est autre chose, et pour les enseignants, mais en tout cas, vous nous expliquez bien la tolérance à un niveau sonore nettement plus élevé dans les salles de classe, plus de mouvement, plus d'interactivité aussi pour les enfants, pour les apprentissages. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler pour réagir au 33 1 84 22 71 71. On est en ligne avec un auditeur qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Bonjour Victor Emmanuel.
Bonjour Emmanuel.
Soyez le bienvenu. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces méthodes-là ? Est-ce que ça fait résonance chez vous au Bénin ?
Résonance, on va dire un peu oui, mais je tiens à préciser qu'en fait c'est plus ou moins une coïncidence parce que c'est des changements au niveau du système éducatif qui ont été mis en place par les Béninois eux-mêmes, mais du fait de leur similitude, ils ont beaucoup été soutenus dès le départ par des institutions américaines.
Ah oui ?
Oui, voilà, vous avez ce qu'on appelle au niveau de l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire, l'approche par compétences. Qui est là depuis plus de 15 ans déjà, mais qui, au fil des années et des évaluations, subit quelques ajustements. Donc, parce qu'avant, ça, c'était des méthodes un peu plus directives, avec le prof sait tout, et puis les élèves qui se contentent d'emmagasiner la connaissance. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus participatif.
Ça veut dire que concrètement, les élèves ont plus la parole dans la salle de classe ?
Pardon ?
Ça veut dire concrètement que les élèves ont davantage la parole dans la salle de classe ?
Tout à fait, tout à fait. Ils sont mis à contribution même dans, presque des fois dans l'élaboration du cours à travers des recherches qu'on leur demande de faire dans la bibliothèque ou sur Internet. Et après, c'est par petits groupes qu'ils présentent ce qu'ils ont trouvé. Puis ça permet des échanges plus productifs, on va dire.
Et les parents, qu'en pensent-ils ?
Alors les parents, pour certains c'est un peu difficile, par exemple d'aider les enfants à réviser à la maison du fait que eux ne sont pas issus de ce système-là. Donc on prend parfois des professeurs à domicile, et on essaye de s'adapter aussi. Mais ils trouvent que dans le fond c'est bon parce que l'enfant est plus éveillé et il est plus au fait de l'actualité de son époque. Et il s'adapte à diverses situations, même dans le quotidien. Le petit inconvénient, c'est peut-être la forme, parce qu'il y a du relâchement au niveau de la maîtrise des langues, qui sont pourtant le véhicule de ces connaissances-là. Et ça a poussé, par exemple, pour ne prendre que ce cas-là, au retour de la dictée dans l'enseignement qui avait été supprimé.
Oui.
Voilà.
Et du coup, qui a été remise, la dictée ?
Oui, déjà.
Pour l'orthographe. Eh ben, merci beaucoup, Victor Emmanuel, de nous avoir appelé de Cotonou. On vous souhaite une bonne journée. C'est vrai que, de toute façon, aujourd'hui, il y a une forme de mondialisation des attitudes des élèves pour tous ceux qui ont accès à Internet, à un smartphone, quelles que soient les méthodes, les programmes scolaires, etc. Ils ont la possibilité, peut-être pas en salle de cours, mais en tout cas, d'aller faire des recherches par eux-mêmes. Et donc, l'enseignant n'est plus le seul à délivrer du savoir. C'est peut-être ça aussi qui fait que les mentalités sont en train de changer, non ?
Oui, tout à fait. Il y a un mouvement mondialisé là-dessus. On leur apprend effectivement à aller chercher leur savoir par eux-mêmes. C'est aussi quelque chose pour toute la vie. C'est de continuer à être un élève, voilà, pour toute leur vie, continuer à chercher des savoirs. Mais il y a aussi, pour la participation, beaucoup de projets. C'est ce qui vient d'être évoqué et qui les force aussi à avoir d'autres compétences que juste l'apprentissage académique. C'est aussi de se mettre à collaborer, à concevoir des projets, et ça, c'est ça les motive. Et ce que disent aussi, pour en revenir à la discipline, les professeurs américains, c'est que la meilleure discipline, c'est une méthode de cours ou un plan de leçon effectif. Et ils adorent les projets parce qu'ils savent que quand l'enfant est mobilisé sur un projet, il va du coup être mobilisé et attentif.
Alors évidemment, on a des auditeurs qui nous écoutent qui sont un peu dubitatifs par rapport à ce que vous décrivez, Véronique Dupont. Natacha nous dit, on parle d'éducation aux États-Unis depuis tout à l'heure, mais je ne comprends pas de quel niveau on parle. Maternelle, primaire, vous avez bien enquêté sur tous les niveaux jusqu'à l'université.
Exactement.
Bien sûr, c'est y compris le lycée. Est-ce que toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées ? Et comment expliquer que la société soit aussi violente avec les plus hauts taux d'incarcération au monde, si ce système est si merveilleux ? Mais vous aussi, vous vous êtes posé cette question d'ailleurs.
Bien sûr, c'est un pays extrêmement contrasté, avec beaucoup de paradoxes, et c'est plus complexe. Tout ne tient pas au système éducatif. Par exemple, la violence, ça tient aussi à la législation sur les armes. Il y a aussi un racisme qui peut se répercuter, être reflété dans le système scolaire, mais souvent maintenant, le système scolaire en a conscience et essaye de lutter contre. Et il y a des méthodes qui sont faites pour ça. Il y a aussi quelque chose, justement, dans le fait de ne pas punir tout le temps, tout de suite, très jeune, pour ne pas faire sortir les enfants du système et ne pas les stigmatiser et les mettre en situation d'échec. Il y a quelque chose qu'ils appelaient l'autoroute école-prison. Mmh. Et ils en ont conscience que c'est souvent les classes les plus défavorisées qui, dès les petites classes, se retrouvent après exclues et se retrouvent en voie d'échec et de délinquance et de mise au banc de la société. Ils font très attention à les garder inclus. L'inclusion, c'est un mot d'ordre maintenant. On essaie de trouver un plan B, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le système du plan B plutôt que d'avoir la punition. Le système qui va vous éviter d'être puni, on discute ensemble de comment faire. Donc, c'est un système qui réfléchit à ses propres défauts aussi.
C'est ça, et ça n'empêche pas la société d'être violente et le monde du travail d'être violent. Alors, comment ces enfants choyés à qui on a injecté de la confiance, du « tu es génial », etc. Certes, tu as des notes très basses, mais tu ne fais que progresser. Et quand ils arrivent en entreprise, ça ne se passe pas du tout comme ça. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, bah t'es viré.
Oui, mais alors ce qu'on apprend dans ces écoles-là maintenant, avec ces méthodes-là, c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en entreprise qui ne sont pas juste d'avoir une note de 10 sur 10. C'est la capacité à travailler ensemble, c'est la capacité à communiquer, à comprendre ce qu'on veut de vous et à exprimer ce qu'on peut apporter, à présenter ses idées. Tout ça, c'est les soft skills, c'est des savoirs clés pour réussir en entreprise, et ça, on les apprend du coup dès le plus jeune âge, et c'est important aussi.
Et à prendre la parole en public, notamment avec des exposés. On fait beaucoup d'exposés dans les écoles américaines.
Oui, parce que votre savoir académique, votre savoir technique, c'est une chose, mais après, pour le vendre dans l'entreprise, le faire, le communiquer, il faut pouvoir s'exprimer, comprendre, être empathique, savoir collaborer avec tout un tas de personnes, et ça, par ces projets collaboratifs, tout ça, c'est mis en expérience dès la maternelle jusqu'au lycée, toute la vie, ça fait partie d'eux.
Alors, j'aimerais quand même qu'on s'intéresse aux mères, aux mamans, parce que vous les avez citées comme d'une patience exemplaire, sachant absolument remotiver leurs enfants sans sanctionner, sans être violente, sans être désagréable. On a reçu à ce même micro des Américaines vivant en France qui s'émerveillaient de voir que les bébés français dormaient mieux, que leur vie que la vie des femmes ne s'arrêtait pas avec l'arrivée des enfants et qu'elles continuaient à mener des carrières, à travailler, à être épanouie aussi en tant que femme. Aux États-Unis, c'est possible avec une telle dictature de l'enfant?
Si, c'est possible. Après, il y a même des super-moms où moi, je me disais, mais comment est-ce qu'elles font? Elles sont avocates, elles ont 3 enfants, elles sont présidentes de l'association des parents, en même temps, elles lèvent des fonds pour des associations. Il y a des femmes qui vraiment arrivent à tout mener de front, c'est assez admirable. Après, on peut dire, nous, que ça nous rajoute encore de la charge mentale. Je pense que l'idéal, comme toujours, c'est un peu un équilibre. Nous, on a une société qui veut garder un peu la part du monde des adultes. Eux, ils sont focalisés sur le monde des enfants. C'est bien de s'inspirer un petit peu de la place qu'ils donnent à l'enfance. Et eux, effectivement, quand ils viennent chez nous, ils s'inspirent du fait que les parents gardent un peu leur bulle aussi, qu'ils ne s'effacent pas complètement pour leurs enfants.
Ouais. Aujourd'hui, évidemment, il y a aussi beaucoup aux États-Unis un regard qui est tourné vers la Chine. Il y a quelques années, il y a une Américaine d'origine chinoise qui a défrayé la chronique avec son livre sur la maman tigre, que vous citez d'ailleurs dans votre livre, on l'avait reçu dans l'émission, dans lequel elle vantait une éducation très autoritaire, où elle vantait vraiment le travail acharné à l'école pour viser toujours l'excellence, y compris d'ailleurs au piano, donc vraiment aux antipodes des croyances américaines. On en avait beaucoup parlé aux États-Unis à cette époque-là, et ça avait déstabilisé les Américains quand même.
Oui, tout à fait, ça les prenait complètement à contre-pied, ça a vraiment scandalisé beaucoup de gens, mais dans les faits, il n'y a pas des tonnes de mamans tigres vraiment, il peut y avoir des parents exigeants qui poussent leurs enfants, mais ça va toujours être quand même avec bienveillance. Ils vont encourager tous leurs talents, c'est ça aussi, même le piano, même le chant, ou des choses qui chez nous ne sont pas toujours valorisées parce qu'on s'attache beaucoup aux matières fondamentales. Ça avait bousculé. Mais dans les faits, c'est quand même pas la majorité des parents américains du tout.
Alors vous dites, oui, que les parents encouragent l'enfant à se réaliser lui-même finalement, l'épanouissement de la personnalité et pas seulement des connaissances. Enfin, il y a un moment donné, quand les enfants veulent aller à l'université, là il y a une réalité qui les rattrape.
Oui, mais pas que. Parce que effectivement, il faut qu'ils aient un bon résultat à leur test pour être sélectionnés. Mais de plus en plus, comme il y a quand même beaucoup d'élèves excellents, ce qui fait la différence, c'est le dossier, c'est la personnalité justement. Donc il ne suffit pas d'avoir juste la meilleure note en maths ou en français ou en anglais chez eux. Il faut aussi montrer qu'on a un projet. Donc on va prendre en compte ce que vous avez fait pendant vos heures libres. Ouais. Est-ce que vous avez
le football,
un journal,
le football féminin, le soccer?
Oui, le football, le golf, le sport, c'est très très important. Et on peut accéder à de très bonnes universités par ses performances sportives. Et ça peut être aussi un vecteur d'égalité sociale. Parce que c'est un accès à des grandes universités quand on n'a pas les moyens de les payer.
Ouais. Mais c'est ce qui explique d'ailleurs le très très bon niveau de l'équipe américaine de football féminin.
Oui. Donc c'est le sport est très très valorisé là-bas et ils mettent les moyens pour ça. Mais il va y avoir d'autres choses. On va regarder, est-ce que vous avez monté un journal? Est-ce que vous avez été active dans une association humanitaire? Est-ce que vous avez fait de la poésie, de la peinture, etc. Et de plus en plus, on vous demande de montrer votre dossier, ce que vous avez fait. Et si vous avez un projet, il va être valorisé même dans les grandes universités.
Aujourd'hui, quand même, les enseignants aux États-Unis font souvent la une des médias. Ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Ils sont obligés d'exercer un deuxième métier pour parvenir à vivre, à payer leur loyer. Il y a eu des coupures drastiques de budget dans les États aussi. Ils sont assez anti-Trump, ou pas ?
Pas systématiquement du tout. C'est un pays qui est très divisé. Ils vont peut-être avoir plus tendance à être anti-Trump, mais je ne m'aventurerai pas là. C'est un pays très divisé politiquement, et c'est dans les États républicains où il y a eu des coupes les plus drastiques. Donc c'est eux qui ont beaucoup souffert. Et effectivement, il y a des États où les profs sont sous-payés, sont vraiment en difficulté avec des écoles en déshérence. On va, c'est pas forcément pour ça qu'ils vont pas d'ailleurs appliquer des méthodes progressives dans certains, mais dans d'autres États, les profs sont quand même nettement mieux payés et plus heureux, même si c'est pas une profession qu'on fait là-bas non plus quand on veut gagner beaucoup d'argent.
Et vous le dites, c'est intéressant, c'est que malgré les conditions extrêmement dures, parfois salariales et d'exercice du métier, ça n'est pas pour autant qu'ils vont faire une croix sur ces méthodes pédagogiques qui demandent plus d'énergie quelque part quand même.
Bah oui, mais non, parce que en fait, nous, en fait, ils passent beaucoup plus de temps à investir sur le climat social, le climat de l'école, le climat scolaire dès le début de l'année. Et après avoir établi ses bonnes relations, ses règles, tout va mieux se passer. Alors qu'ici, on va dépenser beaucoup d'énergie. Il y a encore une étude de l'OCDE qui est sortie récemment pour dire que les profs français étaient ceux qui passaient le plus de temps à la discipline pendant chaque classe.
Donc, perte d'énergie. Avant de conclure cet entretien, Véronique Dupont, on donne la parole à un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. On accueille Olivier.
Oui, bonjour.
Bonjour Olivier, vous avez vécu aux États-Unis ?
Oui, j'ai vécu 10 ans aux États-Unis, mon ex-épouse est américaine,
oui.
Et mon fils a les deux nationalités.
Oui.
Voilà, il
alors
a
la
été,
conclusion justement.
Il est donc à l'américaine, mais ensuite on a vécu aussi à l'étranger, donc il a fait des écoles anglaises en Écosse et au Portugal notamment. Mmh. Voilà, donc ce que je voulais dire simplement, c'est que j'ai entendu effectivement, et je rejoins globalement tout ce que dit votre invité. Ceci étant pour moi, alors effectivement, comme elle l'a noté, l'éducation est quelque chose de privé, enfin, privé si on peut dire, étatique ou au sens des États là-bas. Donc ça change déjà beaucoup de choses. Les professeurs n'ont pas ce que j'appellerais la morgue française. J'ai moi-même fait une grande école française, donc je sais de quoi je parle en France. D'autre part, il y a un respect de l'enfant qu'on retrouve difficilement. En France, pour un enfant aux États-Unis, c'est une personne. Vous ne viendrez pas à l'idée de dire de parler à votre enfant en France comme vous parlez à votre conjoint. Mmh. Et ben, aux États-Unis, vous parlez à votre enfant comme si c'était une personne de plein droit. Mmh. Voilà. Et enfin, je voudrais dire aussi que au niveau de l'éducation, l'indépendance est primordiale aux États-Unis. Et comme mon fils a atteint à 16 ans l'âge d'aller à l'université, il est parti tout seul, comme la plupart des Américains, et il s'est brouillé tout seul avec tout ce qui était administratif.
Tout à fait, dans un campus à l'autre bout du pays, parce que ça aussi, effectivement, les jeunes Américains, ils sont préparés à quitter la famille assez jeune. Merci beaucoup Olivier pour ces constatations, merci de nous avoir appelés, et puis merci à vous Véronique Dupont, donc vous signez Super Kids, c'est très intéressant à découvrir évidemment quand on est dans un système francophone. C'est publié chez Les Arènes. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Dans quelques instants, on va parler de l'accueil des enfants migrants dans les écoles.
Pour nous, les voisins, c'est comme une seconde famille.
RFI.
Et la planète se part.
Le nombre d'enfants migrants et réfugiés dans le monde a augmenté de 26% en 20 ans. Alors comment accueillir ces enfants qui sont souvent traumatisés dans des salles de classe ? On en discute avec vous, Anna-Christina Dadio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste principale des politiques et vous êtes conseiller senior dans l'équipe du rapport mondial de suivi de l'éducation à l'UNESCO. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui dans les différents pays qui scolarisent ces enfants, ces élèves, pas tout à fait comme les autres ?
Alors, premièrement, comme vous l'avez dit, les enfants migrants et réfugiés sont vraiment un grand nombre dans les pays, pas seulement ce qu'on appelle dans les pays à haut revenu, mais aussi dans les pays à bas revenu. Mmh. On parle d'une augmentation de 26% depuis l'année 2000. Et comme on l'a dit l'année passée, quand on a publié le rapport, on pourrait remplir un demi-million de classes avec ces réfugiés et migrants qui, en fait, dont la moitié globalement au moins des 18 ans. Donc oui. Ça, c'est très important. Et concernant l'accueil des réfugiés, en fait, je préfère me concentrer sur les réfugiés parce que les migrants, c'est une problématique différente. Elles sont assez variées dans les différents pays. Alors, ce qu'on observe, c'est vraiment une tendance à l'inclusion, c'est-à-dire à les faire participer à l'école avec d'autres enfants. Mais toutefois, on remarque aussi que ce qui se passe, c'est que ces enfants ont vécu des expériences très traumatiques. Et donc souvent, il présente des signes diagnostiques, des signes qu'on appelle les stress
post-traumatiques.
Mmh. Et en fait, ça, c'est pour vous donner des exemples, c'est les cas tant dans les pays à haut revenu qu'à bas revenu. Si on regarde par exemple l'Allemagne, mmh. on a un cinquième des enfants qui réfugiés qui souffrent des stress post-traumatiques, mais pas seulement là. Par exemple, si on regarde ce qui se passe parmi les enfants déplacés, il y a eu une enquête qui a observé que 75% des 331 enfants déplacés qui sont dans des camps situés dans le sud du Darfour, au Soudan, répondaient aux critères des diagnostics du syndrome du stress post-traumatique.
Mmh. Globalement, quelles sont, là en quelques mots, parce qu'il nous reste très peu de temps, Anna-Christina Dadio, les recommandations que vous faites en tant qu'UNESCO pour que les enfants soient accueillis dans de meilleures conditions ?
Donc, la première chose, c'est que les enfants, en fait, les enseignants, souvent, notent qu'ils ne sont pas assez bien formés. Mmh. Et en fait, ça, c'est quelque chose de très important. Il faut souligner que les enseignants, ce n'est pas des thérapeutes, mais l'école peut jouer un rôle fondamental dans les traitements du traumatisme des enfants. Donc, premièrement, les environnements d'apprentissage doivent être sécuritaires, stimulants et adaptés aux enfants qui ont des besoins différents. Les enseignants qui font face à des élèves qui ont vécu des expériences traumatiques et des difficultés particulières ont besoin vraiment d'une formation pour faire face à leurs défis, une formation même minimale, mais une formation qui leur permet de traiter ces traumatismes. Et les interventions psychosociales et sociales nécessitent vraiment une coordination à travers les différents services, pas seulement l'éducation, mais aussi la protection sociale, les services sanitaires. Mmh. Et enfin, on a beaucoup plus de recommandations, mais quelque chose que je voudrais vraiment remarquer, c'est aussi l'implication de la famille et de la communauté dans ces genres des expériences traumatiques.
Et des parents. Merci beaucoup Anna-Christina Dadio d'avoir répondu à nos questions. Dans quelques instants maintenant, ce sera la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Et justement, cette chronique aujourd'hui, comment être père d'adolescents migrants.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, comme chaque semaine, la chronique de Marie-Rose Moreau. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes pédopsychiatre, directrice de la revue transculturelle L'Autre, et dans notre émission, vous posez les grandes questions que se posent les parents d'ici et d'ailleurs. Toute cette série de chroniques est disponible, comme toujours, en podcast. Et on l'a vu, il y a eu une série sur le sommeil des enfants, une série sur le langage des enfants. Et là, on est sur une série de chroniques sur la place des pères, ici et ailleurs. Aujourd'hui, être père d'adolescent quand on est un immigré. On a vu différentes façons d'être père selon les cultures. Mais comment ça se passe quand on est un papa d'adolescent qui est aussi un enfant de migrant? Pourquoi en parler? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que d'emblée, il y a un nœud entre le père et son enfant?
Oui, il y a un nœud, parce que c'est vraiment très difficile, en fait. Être père d'adolescent, c'est déjà une gageure, hein, déjà, pour tous. Il faut comprendre les adolescents qui traversent cette période de changement, il faut pouvoir leur dire non quand c'est nécessaire, il faut leur dire qu'on les aime, qu'on croit en eux. C'est un métier super difficile. Mais quand, en plus, on est en situation migratoire, alors là, c'est quasiment impossible. L'adolescent, il est né ici, il connaît un autre modèle, à la fois un modèle pour être adolescent et pour être père. Et en général, c'est pratique, il conteste les deux modèles et il considère que son père se comporte comme un archaïque et comme quelqu'un de dépassé. Et même si C'est vrai pour tous les adolescents hein, qui pensent toujours un petit peu ça de leurs parents. Ici, ça prend encore plus de force. L'adolescent doit faire avec ces deux modèles et en général, il s'oppose aux deux, comme je viens de le dire. Par ailleurs, les pères sont très disqualifiés par la migration, souvent. Souvent, ils ont des métiers peu valorisés. C'est difficile de s'identifier à des pères qui sont si peu valorisés.
Alors, globalement, qu'est-ce que vous constatez, vous, en tant que pédopsychiatre, Marie-Rose Moreau, comment font les pères migrants ?
Eh bien oui, c'est ça. Les pères migrants doivent trouver une manière d'être pères ici qui n'est pas la même que là-bas. Parce que s'ils font la même chose, ça ne marche pas. Leur autorité, de toute façon, est contestée. Elle n'est plus, on pourrait dire, naturelle. Elle n'est plus donnée. Souvent, c'est une grande période de vulnérabilité pour eux qui se sentent remis en cause, en particulier par leurs garçons, et à qui ils pensent qu'ils ne peuvent rien transmettre dans ce monde nouveau.
D'où leur absence, d'ailleurs, souvent.
Hein. Oui, parfois, ils s'effacent. Ils se sentent tellement vulnérables. Soit il se taise, soit il se rigidifie et il cherche à être père d'une manière qui n'est pas adaptée, une manière un peu dépassée et ça ne fonctionne pas. Et en général, parfois par essai-erreur, ils vont finir par trouver une position de père dans la migration. Ils doivent inventer une manière d'être père avec ces garçons qui ne leur ressemblent pas tout à fait. Mais il n'y a pas de modèle établi en général. Ils doivent, alors nous on dit qu'ils doivent se métisser, c'est ce que disent souvent les pères. En tous les cas, et ça c'est ce que j'ai appris d'eux, c'est qu'ils doivent valoriser leur histoire, valoriser la manière, les compétences et les histoires de famille. Ils doivent s'appuyer sur l'histoire de la famille.
À quel moment ça ? Justement au moment où leur enfant devient adolescent ou adolescente hein ?
Ben oui, c'est ça, c'est à ce moment-là que ça se joue. Parce que les adolescents aussi, ben eux, ils doivent aussi prendre des choses du monde d'ici et du monde de leurs parents. Eux aussi vont faire des essais-erreurs pour inventer des formes individuelles et singulières, quoi, d'être enfants de migrants. Et donc, on pourrait dire, en fait, que les enfants de migrants sont des métis, mais que leur père aussi. Et que c'est ça qui fait la difficulté et l'inquiétude de cette période, qui est la période où on va se séparer.
Marie-Rose Moreau, on vous retrouve pour la dernière chronique de cette série sur les pères. On parlera toujours d'ailleurs des pères dans la migration et de ce fameux silence des pères qui souvent d'ailleurs est une douleur aussi. On en parle la semaine prochaine chez 7 milliards de voisins et bien sûr, vous pouvez, si vous écoutez les chroniques en podcast, c'est le prochain numéro Parents, enfants d'ici et d'ailleurs à télécharger sur les plateformes de podcast. Merci Marie-Rose Moreau.
Merci Emmanuel.
Alors on dit quoi ?
Alors on dit quoi avec la voisine qui passe une tête dans le studio ? Bonjour Diarra Ndiaye.
Bonjour Emmanuel.
Un phénomène tendance au cœur de Alors on dit quoi ce samedi ? De quoi s'agit-il ?
Alors on parle de staycation ou l'art
staycation.
De... Exactement Emmanuel. C'est l'art de convaincre les populations de voyager locales pendant leurs vacances. Direction pour cela Madagascar qui nous offre un bel exemple de ce nouvel engouement.
L'idée est venue de vouloir faire profiter aux Malgaches découvrir Madagascar à des prix réduits. Ce qu'il y a à Madagascar est que les tour opérateurs classiques ont tendance à se focaliser seulement sur les touristes internationaux, c'est-à-dire les tarifs proposés par les touristes classiques ne sont pas à la portée des pouvoirs d'achat des Malgaches. D'où donc la création de IT, c'est-à-dire promouvoir le tourisme à Madagascar pour les Malgaches, effectivement, à bas prix.
Et moi, je suis toujours étonnée, Diarra, parce que c'est vrai que, par exemple, les Indiens, ils adorent découvrir leur propre pays. Et les Africains, souvent, rêvent d'aller découvrir New York alors que le continent est tellement beau sur place.
Regorge de potentiel et regorge de ressources qu'il faut découvrir et c'est ce que nous allons montrer justement demain.
Voilà, on va partir un peu en vacances avec vous. Allez, la suite, donc c'est samedi à
11h10, temps universel.
À bientôt la voisine.
À bientôt Emmanuel.
Et quant à nous, on se retrouve lundi 7 milliards de voisins, un éléphant dans ma cuisine, ou comment protéger les animaux du braconnage. C'est le récit d'une Française en Afrique du Sud, fondatrice de la réserve de Tula Tula dans le Zululand, émerveillée par la mémoire des éléphants qui, eux aussi, ressentent des émotions. C'est à ne pas manquer dans l'émission, lundi à 10h10, temps universel. Et d'ici là, bien sûr, on reste en contact tout le week-end. Vous nous postez des messages sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et on se retrouve lundi en direct. Merci à vous tous, les voisins et les voisines.